Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins se demandent tous les jours quand viendra le générique et il arrive, alors on recommence. Et bonjour à tous, nouveau départ. Les nouveaux chemins se demandent tous les jours ce qui fait briller les étoiles en compagnie d'une constellation aussi rare et précieuse et composée de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Pierre Folliet et Tristan Grenassia, à la réalisation pacifiste cette semaine Nicolas Berger, à la lecture activiste Georges Kless, avec aujourd'hui à la prise de son de Cambridge Alexandre Dang. À 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui nous rejoindra en studio pour vous donner envie de lire Les causeries sur le temps de Jean-François Lyotard, paru aux éditions Klingsic. Je sais que j'ai lutté toute ma vie pour dire quelque chose que je n'aurais jamais appris à dire. Il en va de même pour tous ceux qui passent leur vie à poursuivre un je ne sais quoi, élusif et omniprésent, subtil et en même temps infini. On le cherche dans la mer, dans la musique, dans les soleils couchants. Par moments, je m'en suis cru tout près, dans les foules, quand j'ai ressenti fortement ce qu'elles ressentaient. On le cherche par-dessus tout dans l'amour. Mais si l'on se laisse à croire qu'on l'a trouvé, quelque ironie cruelle vient fatalement rabattre une telle illusion. Ce lyrisme lucide, ce romantisme sans faux-semblant, c'est celui de Bertrand Russell, l'un des plus grands logiciens du XXe siècle. Cette quête qui le maintient en vie, il l'aura poursuivi dans tous les domaines que l'existence mit à sa disposition. Les éléments d'Euclide, qui lui firent l'effet d'une illumination à l'âge de 8 ans, pour une vingtaine d'années plus tard rédiger les principes de mathématiques dans lesquels il formule ce qui deviendra le paradoxe de Russell. L'engagement pacifiste, qui lui valut d'être renvoyé du Trinity College de Cambridge en 1916. Le militantisme en faveur du droit de vote pour les femmes dès 1907, notamment. L'écriture reconnue par le prix Nobel de littérature en 1950. Et toujours, la pensée. Seul moyen pour l'homme de ne pas être l'esclave des circonstances, et la philosophie qui, en s'inscrivant dans l'horizon des sciences, peut nous affranchir de la vie instinctive et ainsi nous procurer, nous dit-il, un certain détachement à l'égard de toutes les espérances et de toutes les inquiétudes de ce monde.
Un jour...
C'est donc le portrait sans fard et sans retouche de ce mathématicien, logicien et philosophe engagé, né en 1872 et mort en 1970, que nous vous proposons cette semaine, avec demain Pascal Ludwig qui viendra vous présenter le tournant linguistique induit par Russell, mercredi Denis Vernant qui s'interrogera sur le passage de la logique au mysticisme dans l'œuvre du philosophe qui ne croyait pas au savoir éthique, et jeudi c'est Anne-Françoise Schmitt qui vous contera l'engagement du pacifiste qu'il était. Mais aujourd'hui, pour entrer sans plus attendre dans la vie et la pensée de Russell, qui fut aussi l'un des fondateurs de la philosophie analytique, je cède la parole à Stephen Themerson, philosophe et ami de Russell, qui 10 ans après sa mort en parlait en ces termes. Écoutez.
Un jour, il m'a dit en souriant que quand il était très jeune, son cerveau était assez bon pour faire de la mathématique. Quand il était plus âgé, il était bon pour faire de la philosophie. Après la philosophie, c'était la littérature. Et quand il était très vieux, c'était la politique. Russell n'a pas construit un grand système philosophique. Il disait qu'on doit faire de la philosophie piecemeal. Par morceaux, pièce à pièce, comme on fait la science.
Bonjour Ali Ben Makhlouf.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci.
La dernière fois que nous nous sommes parlé, nous étions au Maroc à l'occasion d'une semaine que les Nouveaux Chemins avaient consacrée à la philosophie à Casablanca.
C'est bien ça.
C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau, cette fois-ci en studio, pour parler de Russell. Vous êtes professeur de philosophie des sciences, du langage et de la connaissance à l'Université de Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, auteur de notamment trois ouvrages consacrés à Russell, un aux belles lettres, un autre chez Ellipse et un autre épuisé au PUF. Et c'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine. On vient d'entendre donc son ami Stephen Temerson présenter son parcours intellectuel avec cette phrase, et je vous propose qu'on commence avec celle-ci, puisqu'elle est un bon moyen d'entrer dans sa pensée. Russell faisait de la philosophie comme on fait des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, et il ajoute morceau par morceau, c'est-à-dire de manière fragmentaire, écartant la totalité, écartant les besoins compulsifs d'unité, essayant d'être toujours attentif aux faits particuliers. D'ailleurs, c'est en ce sens que dans cet ouvrage de 1914 sur l'esprit scientifique, il salue le sens de l'observation de Montaigne et de Rabelais, c'est-à-dire cette manière d'accumuler les faits. Il était très sensible aux faits particuliers. Alors, quand on est sensible aux faits particuliers, on a effectivement une façon d'écarter complètement les notions de cause première, de totalité, d'unité, et du coup, on retrouve effectivement une méthode scientifique qui travaille fragment par fragment et qui est analytique, comme justement l'est sa philosophie. Et c'est en ce sens que, effectivement, on peut dire que sa philosophie est une philosophie issue de la méthode scientifique.
Mais Russell est loin de n'être qu'un philosophe, même si ce n'est pas réducteur. Hein. On l'entendait, Temerson disait bien qu'il s'était intéressé à la fois à la politique, à la littérature, aux mathématiques, aux sciences. Il y a eu plusieurs engagements éthiques de sa part qui étaient très fort.
Oui.
Est-ce que cette volonté de rabattre en un sens la méthode scientifique sur la méthode philosophique est exclusive et purement intellectuelle, ou est-ce qu'on peut y voir des conséquences qui seraient d'ordre plus pratique dans sa vie ?
Oui, alors effectivement, l'impulsion première est intellectuelle. Son point de départ est dans les mathématiques et la logique. Il a voulu véritablement faire des mathématiques un prolongement de la logique. Et il y a tout de même cette idée qu'il lutte pour l'émergence toujours plus grande de l'esprit, beaucoup plus, dit-il dans son autobiographie, que pour un bonheur pour l'humanité. C'est comment l'esprit devrait sans cesse émerger. Et donc, il y a véritablement cette force intellectuelle première. Mais de cette force intellectuelle première résulte, je dirais presque à titre de conséquence, un souci éthique, un souci politique et effectivement un sens de la langue, puisque vous l'avez rappelé, il a eu ce prix Nobel de littérature.
Mais alors, il faut l'entendre au sens large de littérature, n'est-ce pas ?
Oui,
il n'a pas écrit des romans.
Non, c'est vrai. Mais tout de même, son autobiographie est une œuvre quasi littéraire. Vous voyez, puisqu'il a pris cette patience de la faire sur plusieurs années, et à elle seule, à mon sens, elle justifie une pleine écriture littéraire.
Alors, comment comprend-on ce paradoxe qui va nous occuper toute cette semaine entre un homme qui affirme que c'est uniquement dans la pensée que l'homme est un dieu, alors que dans l'action et le désir, nous sommes les esclaves des circonstances, et de l'autre, tout cet engagement politique qui va le conduire de toute sa vie à prendre position pour le pacifisme lors de la Première Guerre mondiale et puis contre l'armement nucléaire plus tard. Il y a un vrai paradoxe ici.
Oui, alors je pense qu'effectivement, on pourrait partir de cette idée, revenir à cette notion de méthode scientifique. Il a véritablement voulu faire de la philosophie une compréhension du monde et non pas une attitude qui serait prolongement de nos désirs. Autrement dit, la philosophie n'est pas d'abord une anthropologie. C'est pourquoi c'est une philosophie de la connaissance. C'est presque une cosmologie qui est première. Il avait une forme d'humilité cosmique, un souci véritablement de l'univers que nous habitons, avec les grands travaux sur la relativité desquels il était contemporain, Albert Einstein. Albert Einstein d'ailleurs qui le défendra quand il sera mis en difficulté à New York en 1941. Il y a véritablement cette idée que la philosophie doit être une compréhension théorique du monde, beaucoup plus, si vous voulez, que quelque chose qui est pris dans nos désirs humains. Et à partir de là, effectivement, ce que vous soulignez comme paradoxe se comprend. On peut effectivement après parler du désir, indiquer, comme il le dit, que une vie de béatitude est une vie inspirée par l'amour et guidée par la connaissance. Mais le guide et la connaissance, et pas spécialement la connaissance des hommes, c'est la connaissance et la passion de choses non humaines. C'est curieux qu'on puisse dire cela. Des choses non humaines, c'est-à-dire les mathématiques, qui sont véritablement, dans sa première philosophie, le monde platonicien donné en exactitude et en précision. Et ce monde platonicien des mathématiques, il le signale comme une forme d'art, comme ce qui nous rend quasi divin, et ce qui est capable de perfection. On a tout le lexique du platonisme, et ça donne une impulsion à sa philosophie prise entre l'humilité cosmique et un réel engagement dans un scepticisme, ce que vous avez lu comme texte disant « je cherche, je cherche, je cherche ». Skepsis, c'est finalement le scepticisme. Un scepticisme tantôt enjoué, comme celui de Montaigne, ou un scepticisme véritablement de l'intellect, qui fait que, par exemple, il dira... On me dit pacifiste, on me dit liberal au sens anglais de gauche, on me dit activiste. En réalité, je ne suis pas toutes ces choses, parce que même quand j'ai voulu faire taire l'intellect sceptique, il continuait à murmurer ses doutes à moi pour finalement mettre à distance tout ce que l'on considère comme forme d'engagement.
Pour être sceptique, Russell n'en est pas moins amoureux ou du moins passionné. Et si j'ai un souhait au terme de cette semaine, ce serait que les auditeurs retiennent de Russell non pas cette image aride que l'on peut en avoir de philosophe analytique qui s'est préoccupé par la logique et les mathématiques, mais bien cette passion qui le guide et dans l'amour et dans le savoir. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est un extrait de son autobiographie, interprété ici par Georges Clesse.
Trois passions, simples mais irrésistibles, ont commandé ma vie. Le besoin d'aimer, la soif de connaître, le sentiment presque intolérable des souffrances du genre humain. Ces passions, comme de grands vents, m'ont poussé à la dérive de ci, de là, sur un océan d'inquiétude où je me suis parfois trouvé au bord même du désespoir. J'ai cherché l'amour, d'abord parce qu'il est extase. Extase si puissante que... plus d'une fois, pour en jouir seulement quelques heures, j'aurais volontiers sacrifié le reste de mon existence. Je l'ai cherché en second lieu parce qu'il nous délivre de la solitude, de cette affreuse solitude qui amène notre conscience à se pencher en frissonnant sur l'abîme insondable et glacé du non-être. Je l'ai cherché, enfin, parce que j'ai vu dans l'union amoureuse comme une préfiguration mystique du ciel, telle que l'ont rêvé les saints et les poètes. Non moins passionnément, j'ai aspiré à la connaissance. J'ai voulu comprendre les cœurs humains. J'ai voulu savoir ce qui fait briller les étoiles. J'ai tenté de capter la vertu pythagoricienne qui maintient au-dessus de l'universel devenir le pouvoir des nombres. De ces ambitions, j'ai réalisé une toute petite partie. L'amour et le savoir, pour autant qu'ils m'étaient accessibles, m'élevaient au-dessus de la terre, mais toujours m'y a ramené la pitié. Les cris de douleur se répercutaient au plus profond de moi. Enfants affamés, victimes des oppresseurs et des tortionnaires, vieillards sans défense, devenus pour leurs enfants un odieux fardeau, tout un monde de douleur, de misère et de solitude bafoue la vie telle qu'elle devrait être. Quand je voudrais tant remédier au mal, je ne peux qu'en souffrir moi-même. Telle a été ma vie. Elle m'a semblé digne d'être vécue. Et... je la revivrais volontiers si la chance m'en était offerte.
Lonely.
Ali Ben Makhlouf, le texte de l'autobiographie de Russell était effectivement un monument de littérature hein, qui est extrêmement beau. On va l'entendre un extrait, on entend cette phrase. J'ai voulu savoir ce qui fait briller les étoiles. Oui. Tout le lyrisme de Russell se trouve dans cette phrase.
Oui.
Avec surtout, et là on peut s'arrêter là-dessus, ce qu'il cherche en réalité, il le dit ici, c'est à s'éloigner de cette affreuse solitude dont il parle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le fossé entre l'âme individuelle prise dans ses espoirs et ses craintes et sa profonde solitude et toutes les formes d'engagement qui vont jusqu'à la transcendance de la vérité sur la connaissance, parce que la vérité transcende la connaissance humaine. Il y a des choses qui sont plus fortes que moi, comme dirait Charles Sanders Peirce, qu'il avait beaucoup lu. Le vrai, c'est ce qui est plus fort que moi. Et donc, à la fois, on va au plus profond de soi-même dans cette solitude. Je rappelle que Ray Monk a consacré une biographie de Russell de plus de 1000 pages dans la première partie, s'appelle « The Spirit of Solitude », l'esprit de la solitude. Et effectivement, Russell était dans une forme de solitude désespérée qui lui venait de ce fameux intellect sceptique, parce qu'il disait « Quand bien même je vois que je suis pris dans l'enthousiasme facile de ceux qui sont d'accord avec moi, cet intellect continue à me murmurer qu'il faut effectivement que je m'en sépare et il me met dans une solitude désespérée. » Et il avait, je ne résiste pas à l'idée de le lire en anglais, cette expression très très belle de la vie comme fardeau. Life is a burden if those one loves best have others who come first. La vie est un fardeau si ceux que l'on aime le plus ont d'autres personnes dans leur cœur qui viennent en premier. On se retrouve seul. Et s'il n'y a pas un coin du monde, a corner of the world, où l'on puisse mettre fin à la solitude, where once loneliness is at an end. Et donc il y a véritablement cette solitude qui est sans cesse là. Mais c'est une solitude sans romantisme, sans sentimentalisme, parce qu'il dit « Une fois que j'ai pris conscience de cette solitude, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est faire. Parce que le sentiment ne fait pas, il reçoit. » Et il faut donc agir.
Et pourtant, donc, on l'a entendu, les extraits que j'ai lus et qui ont été interprétés par Georges Clès, on y entend quand même une forme de, alors peut-être pas de sentimentalisme, mais c'est loin d'être un cœur aride comme il voudrait l'être.
Non, mais le sentimentalisme, c'est pas le sentiment exalté, c'est le sentiment qui prétend agir. Mmh. Et le sentimentalisme, justement, c'est cette fausse illusion qu'en étant complètement dans le sentiment, on puisse faire quelque chose. Le sentiment, il ne fait pas, il reçoit. Et donc, à un certain moment, une fois qu'on a bien senti et ressenti comme un pathos cette solitude, il faut se ressourcer dans une action qui ne peut venir que d'ailleurs. Elle vient des mathématiques comme une pratique, elle vient du pragmatisme, de la croyance prise dans ses effets, héritage de William James, elle vient de son engagement pacifiste durant la Première Guerre mondiale pour lequel engagement il a fait 6 mois de prison, et de ces différents engagements jusqu'à la lutte contre justement l'hégémonie au Vietnam. Et donc cette action le remettait en quelque sorte un peu dans ce monde dont il reconnaît l'expression que vous affectionnez sur qu'est-ce qui fait briller les étoiles, eh bien, dans ce monde qui est en totale disproportion avec nous, vu ses dimensions. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est agir.
Un philosophe devrait-il être un homme d'action?
Oui, je crois, à moins qu'il ne soit engagé dans quelque tâche particulière. Je ne considère pas que j'étais un homme d'action quand nous élaborions les Principia Mathematica, et je crois que cet ouvrage était à faire. Mais je pense qu'un philosophe devrait avoir des idées sur ce qu'il convient de faire et devrait exprimer ses idées. Sans souci d'être impopulaire, il l'est toujours de toute façon.
I don't know whether you can possibly get a world in which philosophers are wise.
Il reste que je ne sais pas où l'on peut trouver un monde dont les philosophes seraient sages. Dans notre monde à nous, jusqu'ici, la plupart des philosophes ont été insensés, et il en est de même aujourd'hui. Ils se permettent jusqu'à des passions aussi vulgaires que le patriotisme.
Ma méthode a toujours été de partir de quelque chose de vague, mais d'énigmatique. de quelque chose qui paraît indubitable mais que je ne peux exprimer avec précision. Je passe par des phases dont la première serait comme de voir quelque chose à l'œil nu et la dernière de l'examiner au microscope. Je constate que l'attention fait apparaître des divisions et des distinctions, là où d'abord rien n'était visible, tout comme à travers un microscope vous pouvez voir dans une eau impure des bacilles qui à l'œil nu n'étaient pas discernables. Nombreux sont ceux qui s'en prennent à l'analyse, mais il m'a toujours semblé évident, comme dans le cas de l'eau impure, que l'analyse donne de nouvelles connaissances, sans rien détruire de la connaissance antérieure. Ali Ben Maclouf, Bertrand Russell, plus que d'autres philosophes sans doute, a insisté pour éviter la confusion entre philosophie et psychologie. Alors je ne vais pas tomber dans la psychologie en disant que c'est parce qu'il regrette que les philosophes ne puissent être des sages et s'engager pour une bonne cause, hein, ce qu'il disait dans l'extrait qu'on a entendu avant, qu'il a développé une méthode très analytique, mais quand même, essayer d'entrer dans le vif de sa méthode. Le texte que je viens de lire vient de son ouvrage My Philosophical Development en 1959. Oui. Il insiste donc sur l'importance de cette méthode dite analytique. Oui. Qu'en est-il ?
La méthode analytique, d'abord, dit-il, elle est décriée, elle est mal vue, parce qu'on pense qu'analyser, c'est falsifier. Analyser, c'est falsifier le réel. Analyser, ce n'est pas falsifier le réel, selon lui. Il dit, mais je ne suis pas assez naïf pour dire que ce qu'on avait au début, c'est ce qu'on retrouve à la fin. Je ne suis pas assez naïf pour cela. En ce sens, si vous voulez, quand on critique aujourd'hui l'aspect réductionniste des sciences, l'aspect modélisateur, tout cela vient de l'analyse. La science est réductionniste, non pas au sens où elle prétend restituer le réel tel qu'il est, mais elle est réductionniste au sens où elle parvient, comme sur des maquettes, sur des modèles réduits, à faire émerger un élément. Et pour lui, l'analyse, c'était quoi ? C'était arriver aux constituants réels du monde qui ne sont pas apparents. Qui ne sont pas ceux qui nous sont apparents. Seule l'analyse permettra, eh bien, dit-il, d'arriver à un inventaire du monde. C'est une de ses expressions. Parfois, il dit même le zoo du monde. Qu'est-ce qui existe dans cet inventaire du monde ? Des choses particulières, des relations, des propriétés, des qualités. Eh bien, précisément, c'est l'analyse qui fait ressortir quelques petites taches de couleur, quelques sons qui vont être les particuliers qui sont, si vous voulez, alors on n'a pas souvent parlé de la substance, il dit, moi je n'ai rien contre la substance, si vous considérez que c'est short time, que c'est ce qui subsiste un petit moment. Donc les particuliers, ce sont des substances, mais qui existent très très peu de temps. La durée, eh bien, je ne peux pas, à moins de la considérer comme un attribut divin pour ceux qui croient précisément aux attributs divins, il n'y a que des particuliers qui existent peu de temps, des relations qui sont pris dans des relations, et il y a une diversité immédiate des choses du monde et non pas précisément une diversité apparente et une unité réelle.
Mais alors, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, il faut savoir contre qui Russell s'oppose lorsqu'il met au point sa méthode analytique.
Oui, alors effectivement, dans le Cambridge de sa formation, il y avait un très fort courant de symbolisé par MacTaggart et par Bradley, qui est l'hégélianisme. Et donc l'hégélianisme, au début, eh bien, il n'y a aucune raison pour ne pas suivre ses maîtres. Ça fonctionne à la confiance et à l'empathie. Et puis petit à petit, les mathématiques le réveillent en quelque sorte de cet hegelianisme en disant ben, j'ai lu Hegel et j'ai vu, les mots sont un peu durs, qu'il était soit ignorant, soit stupide dans ce qu'il affirmait mathématiquement. Et donc j'abandonne la philosophie allemande pour me tourner vers les mathématiciens allemands.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il reproche à la philosophie de Hegel précisément ?
Qu'elle a mis en avant les notions d'unité comme ce qui est réel, l'unité du monde, l'idée que l'univers est un. L'idée que ce qui est réel, c'est toujours ce qui a une figure de l'un, alors que ce qui est réel, c'est ce que je venais de dire, ce sont des petites choses particulières dispersées comme des atomes, d'où l'atomisme logique, reprenant la grande tradition de l'empirisme de Hume et de Locke. En réalité, c'est la diversité qui est réelle et non pas l'unité. C'est ça qu'il reproche à Hegel, c'est ce qu'il appelle son monisme logique, l'idée que tout se déduit d'une idée. En fait, il y a dans la méthode scientifique différentes méthodes. Il y a l'induction, il y a la déduction, il y a l'observation, il y a l'abduction. Et donc, on ne peut pas dire que tout découle d'une même idée. Ça, c'est le monisme logique. Non, la réalité ne découle pas d'une idée, ne découle pas d'un seul point. Son grand combat, c'est contre l'idéalisme. L'idéalisme, il le définit comme ce qui confond la représentation et son objet. Et il est pour la dualité entre l'arbre que je vois et mon idée de l'arbre. Il dit, beaucoup de gens acceptent assez facilement la distinction entre mon idée de l'arbre et l'arbre. Mais quand on leur dit « votre idée de deux est deux », eh bien, ils ont du mal à distinguer entre deux et l'idée de deux. Et c'est comme ça que l'idéalisme a infesté les mathématiques. Et c'est ce que vous avez appelé la psychologie. En fait, c'est le psychologisme. Il n'a rien contre la psychologie, mais c'est l'intrusion de la psychologie dans les mathématiques qui fait que l'on confond deux et le nombre 2 est notre idée de 2. Et c'est cela, c'est les mathématiques qui le réveillent de son idéalisme premier, de ce monisme logique, pour aller dans un atomisme logique. Et les nombres, précisément, c'est la dissemblance même. 2 n'a rien à voir avec 3, qui n'a rien à voir avec 4. Autant les figures sont un peu semblables, autant les nombres, l'arithmétique, ne nous donne que de la dissemblance. Et c'est cette dissemblance qu'il prend comme méthode pour analyser également la diversité du monde comme une vaste dissemblance immédiatement donné dans des relations.
Ça, c'est la notion de pluralisme. Donc, on a donc d'abord le refus d'une forme de monisme logique.
C'est ça. Hein,
donc, avec en tête d'un chef de file Hegel, donc pour qui le monde serait régi par un principe, par une unité. Il s'oppose à ça grâce à la méthode analytique. Il va essayer de mettre en œuvre à la fois une pensée de la relation. Ce qui compte n'est pas tellement la relation d'un sujet à prédicat, mais la relation entre les différents sujets et les prédicats, pour arriver à ce que l'on peut nommer à la suite de William James, à une philosophie pluraliste.
C'est ça.
L'homme, la connaissance humaine n'étant pas omnisciente, nous ne pouvons connaître qu'un aspect de la réalité. Celle-ci est donc forcément plurielle. On a là les éléments qui nous permettent de commencer à nous familiariser avec ce qu'est la philosophie de Russell.
Tout à fait. Et on avait commencé cette émission en parlant des faits particuliers et de l'hommage appuyé qu'il rend à Montaigne et au sens de l'observation de la Renaissance. Mais les faits particuliers, c'est quoi? C'est précisément cela, cette diversité. Il conteste aussi, alors on peut remonter à Kant lui-même, il conteste chez Kant, non pas le monisme logique, mais la propension de toujours parler des propositions universelles, tous les corps sont étendus, tous les corps sont pesants, et pas assez les propositions particulières. Il y a 2 racines carrées de 4. Il y a le jugement d'existence qui est en même temps le jugement particulier, c'est la même chose, et bien n'a pas trouvé sa place pleinement, dit-il, dans cette philosophie qui va de Kant à Hegel.
Et donc il va essayer d'insister sur le fait que le savoir est toujours lié à une certaine subjectivité, écoutez-le, c'est dans la philosophie de l'atomisme logique en 1918, toujours interprété par Georges Clase.
La logique que je veux défendre est atomiste, par opposition à la logique moniste de ceux qui suivent Hegel. Quand je dis que ma logique est atomiste, je veux dire que je partage la croyance du sens commun qu'il y a plusieurs choses séparées. Je ne considère pas l'apparente multiplicité du monde comme de simples phases et divisions irréelles d'une réalité une et indivisible. Il s'ensuit que ce qu'il conviendrait avant tout de faire pour justifier l'espèce de philosophie que je veux défendre, ce serait de justifier le procédé lui-même de l'analyse. On dit souvent que le procédé de l'analyse est une falsification, que quand on analyse un fait concret, on le falsifie, et que les résultats de l'analyse ne sont pas vrais. Je ne pense pas que cela soit correct. Je ne veux pas dire, bien entendu, et qui oserait le prétendre, que quand on a procédé à une analyse, on conserve tout ce que l'on avait au départ. Mon intention n'est pas de réfuter les positions avec lesquelles je suis en désaccord par le biais de la controverse en argumentant contre elles, mais bien plutôt en exposant de manière positive ce que je crois être la vérité sur la question. Quelle que soit l'espèce de théorie de la connaissance que l'on considère, on est inévitablement lié à une certaine subjectivité, parce que la question qui nous intéresse n'est pas simplement celle de savoir ce qui est vrai du monde, mais celle-ci: que puis-je connaître du monde? Tout argument doit se développer à partir de quelque chose que l'on croit vrai. Si cela nous semble vrai,
Il n'y a plus rien à faire.
Vérité, vérité, si tu voulais, tu pourrais te dévoiler. Je saurais ce qui se passe dans le cœur de mamie. Pourquoi ses yeux brillent en parlant du grand Johnny? Pourquoi, je t'en prie, pourquoi? Vérité, vérité, si tu voulais, tu pourrais tout éclairer. Je saurais ce que pensent un peu tous les amis. Celui qui me vend, celui qui me démolit. Pourquoi, je t'en prie, pourquoi?
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h30. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée au philosophe Bertrand Russell. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Ali Ben Makhlouf, spécialiste de la philosophie des sciences, du langage et de la connaissance à l'Université de Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, auteur de plusieurs ouvrages sur Russell et puis plus récemment de deux ouvrages intitulés « Le réveil démocratique » et l'autre « Selon la raison », publié chez Deka Éditions, également disponible chez Vrin.
Je voudrais tout oublier. J'ai ma vraie vérité, c'est la plus belle de la vie. L'enfant qui sourit, le jour qui s'épanouit, et rien n'est plus vrai pour moi. Vérité, vérité, ma vérité, c'est le blé, tout le blé qui va germer. C'est ma mère qui a pleuré quand j'étais un petit soldat. C'est tous ceux qui m'aiment, car enfin y en a quand même. Y en a qui vivent pour moi. Vérité, vérité.
Ben Makhlouf, pour être sceptique, Russell n'en croit pas moins une certaine vérité. Il l'a dit dans le texte que l'on vient d'entendre. Hein. Oui. Il dit « Je voudrais exposer de manière positive ce que je crois être la vérité sur la question ». Alors avant d'en revenir à ce paradoxe entre vérité et scepticisme, d'ailleurs l'un implique l'autre, hein, j'aimerais qu'on s'arrête sur une autre phrase du texte. Il dit « La question qui m'intéresse n'est pas simplement celle de savoir ce qui est vrai du monde, mais celle-ci, que puis-je connaître du monde ?»
Oui.
Question qu'ancienne. Par excellence, et pourtant vous avez dit qu'il s'opposait à la méthode de Kant.
Ah oui, parce qu'il n'y a aucune... Vous savez, les conditions de possibilité de l'expérience, les fameuses conditions de possibilité de l'expérience de Kant, eh bien pour un philosophe comme Russell, l'accent est mis sur expérience et pas sur possibilité. Il n'y a pas de caractère transcendantal. Si vous dites les conditions de possibilité de l'expérience, vous risquez de vous noyer dans les possibilités, de décrocher avec le réel, et il faut garder, comme il dit, un sens robuste de la réalité. Donc l'expérience, oui. Les sense data, oui. Les données sensorielles, oui. Elles sont indéniables. On part justement des sons et des couleurs et de monde tel qu'il nous apparaît. Ça, c'est du perçu qui est vague, très vague. Or, la connaissance, vous l'avez souligné tout à l'heure, part du vague au précis. Mais sa validité, elle est acquise dans la précision. Son fondement, il est acquis dans la précision. La subjectivité n'est pas fondatrice. Elle n'est pas transcendantale. Elle est un point de départ sans être ni critère ni fondement. Et donc, si vous voulez, bien sûr, on part de la connaissance vague. Il y a un certain nombre de personnes dans cette salle. Voilà, ça c'est très subjectif et ça vient de l'immédiatement perçu. Et à un certain moment, je vais commencer à dire, oui, mais il y en a 5, et tout à l'heure il y en avait 6, et je vais commencer à préciser. Mais la connaissance qui...
Donc l'expérience est première, cher Russell.
L'expérience des sense data complètement, des données sensorielles. On part du perçu, on arrive au conçu, d'autres l'ont dit, mais précisément c'est ce fossé qui est pour lui le cheminement de la connaissance qui est justement ponctué de scepticisme. Et on sait que, alors pour reprendre ce que vous avez dit sur la tension entre vérité et scepticisme, on construit des théories, mais les théories ne sont que des pis-aller. Wittgenstein dira, ce sont des béquilles. À un certain moment, quand il faut les laisser tomber, on les laisse tomber. Pourquoi ? Parce que le réel insiste avec de nouveaux faits, de nouvelles observations. Il a bien fallu laisser tomber le géocentrisme. Il a bien fallu... À chaque fois, ce sont des faits qui mettent à mal les théories. Il faut des théories, mais précisément, ce ne sont que des béquilles. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de système rigide chez lui. Il y a une révision de sa philosophie de façon permanente. Le premier Russell, le second Russell, le troisième Russell, il y a eu beaucoup de choses. Au début, il était dans une ontologie luxuriante où même les propositions étaient des êtres. Mais après, il considère que ce ne sont que des constructions linguistiques et des conventions. Donc, vous voyez, lui-même se révise tout le temps par cette méthode sceptique. Mais en tous les cas, pour revenir à ce point essentiel, que puis-je connaître ? La question kantienne, si vous voulez, est totalement réorientée en un sens très empiriste, très humien, où là encore, il s'agit de, dégraisser un peu une forme d'idéalisme dans l'empirisme classique, parce que parler des idées chez Locke et chez Hume, c'est encore une forme de ne pas prendre en compte assez directement les données indéniables, les données sensibles.
Mais si une chose est de vouloir partir, de prendre en compte les données sensibles de l'expérience comme point de départ de la philosophie, une autre, et là il me semble qu'on trouve un autre paradoxe, est de vouloir appliquer la méthode scientifique, voire mathématique, à la philosophie. Oui. Ce sont deux choses complètement différentes. On ne fait pas une expérience des mathématiques.
Non, mais précisément les mathématiques, le grand rêve qu'il hérite de Frege, qu'il a découvert assez tard, en disant j'avais pensé que j'avais moi-même inventé ce dont il parle, mais finalement personne ne l'avait lu en 1879, en 1884, les grands livres de Frege, les fondements de l'arithmétique et l'idéographie, eh bien, je le découvre en 1901, et c'est cette idée que tout de même, les rapports logiques sont partout. Que tout de même, la logique avec ces notions, lesquelles l'identité, la généralité, la quantification, les propositions universelles, les propositions particulières, avec la négation, la conjonction, tous les connecteurs logiques, eh bien, tout cet outil-là va se retrouver partout, parce que les rapports logiques sont partout. Il ne s'agit pas de ramener tout aux mathématiques, mais il s'agit d'utiliser des outils qui vont précisément être performants dans la construction de la rigueur mathématique. Exemple, on parlait des sens data, mais les sens data, sans être corrélés les uns aux autres et corrélés précisément entre plusieurs personnes, sans la corrélation, eh bien je ne fais rien de mes sens data, je reste enfermé dans un solipsisme. Ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui peut distinguer un fantôme et une hallucination d'une réalité, c'est que je dois absolument sans cesse corréler et avoir, dit-il, sans d'une part un sens de l'abstraction que donnent les mathématiques, d'autre part, un sens instinctif de la réalité, un sens robuste de la réalité, sinon on va tomber dans l'idéalisme. Alors je ne dis pas que l'abstraction mathématique permet d'elle dérive le sens robuste de la réalité, sinon je vais être dans un idéalisme logique. Non, mais ça accompagne. Et si on n'a pas, dit-il, à la fois l'abstraction des mathématiques et le sens robuste des réalités et de conjonction extrinsèque, si on n'a pas les deux, eh bien on n'avance pas. Et donc en fait, c'est ce sens robuste de réalité, c'est ce réalisme qui quand même utilisera des outils logiques dont j'ai parlé.
Mais Kant ne dit pas autre chose, hein, pour que toute une connaissance soit possible, il faut précisément cette rencontre entre la théorie d'un côté et l'expérience de l'autre.
Oui, mais ce n'est pas la théorie et l'expérience, ce n'est pas tout à fait le vis-à-vis expérience-théorie, ce n'est pas du tout ce vis-à-vis-là, ce n'est pas l'idée que notre entendement vient avec une structuration et les catégories qui informent le phénomène, ce n'est pas du tout cela, c'est cette idée que graduellement on va aller vers la précision en... À un certain moment, le formalisme va aider précisément à partager la connaissance, parce que sinon, je le répète, on reste dans le solipsisme. Et je répète, ce qui est gênant dans le kantisme pour lui, c'est un, qu'on insiste sur la possibilité au point d'oublier l'expérience. Deux, parce que les conditions de l'expérience... Alors si on veut dire autrement, les conditions de possibilité de l'expérience sont elles-mêmes anthropologiquement de l'expérience. Elles font elles-mêmes partie de l'expérience et elles ne sont pas en amont, si vous voulez, de manière transcendantale. Et d'autre part, ce qu'il reproche, et ça je crois que c'est très très important, c'est l'absence, et Frege l'avait noté également dans les fondements de l'arithmétique, c'est l'absence total d'intérêt pour les propositions particulières. Pourquoi, dit-on, tous les corps sont étendus, tous les corps sont pesants, et on oublie, il y a des racines carrées de 4. Je reprends mon même exemple. Et il faut aller vers les jugements particuliers. Parce que si on ne va pas vers les jugements particuliers, on va penser qu'ils sont induits par l'universel. Et donc, on va penser que dès qu'on dit que tous les Grecs sont des êtres humains, on pense qu'il y a des Grecs, alors que la proposition ne le dit pas. Une proposition universelle, c'est une proposition conditionnelle. Si quelque chose est un Grec, quelque chose est humain. Mais il faut encore prouver anthropologiquement qu'il y a des Grecs. Mais ça, la logique ne s'en charge pas. Elle ne se charge pas de l'anthropologie. Donc, avoir reconnu, voilà le point analytique, logique qui sert, que les propositions universelles sont conditionnelles, qu'elles ne renferment pas les jugements particuliers, que l'essence ne comprend pas l'existence, qu'il n'y a pas d'être nécessaire parce que la nécessité ne se rapporte qu'aux propositions. Seules les propositions sont nécessaires, c'est-à-dire celles qui sont toujours vraies, c'est-à-dire les tautologies, mais il n'y a pas d'être nécessaire. Et il dit, j'ai même pas à dire que tous les êtres sont contingents parce qu'on penserait qu'il y a du nécessaire à côté. Mais là, s'il y a un sens à affirmer un fait, il y a un sens à le nier. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de nécessité.
C'est clair. Il est curieux de voir combien le pluralisme radical a toujours été peu en faveur auprès des philosophes. Que leurs tendances fussent matérialistes ou qu'elles fussent spiritualistes, les philosophes ont toujours visé à débrouiller le monde, à le débarrasser de l'apparent fouillis dont il est encombré. À l'enchevêtrement qui d'abord s'offre au sens, ils ont substitué des conceptions bien ordonnées et conformes aux principes d'économie. Qu'il y eût dans ces conceptions quelque élévation morale ou simplement une sorte de propreté intellectuelle, en tout cas elles avaient pour elles de se présenter avec des contours esthétiquement purs et précis, et elles tendaient à faire du monde quelque chose qui fût net, qui fût pénétré d'intellectualité quant à sa structure interne. Auprès de tous ces tableaux où triomphe le rationalisme, l'empirisme pluraliste que je professe fait triste figure. C'est quelque chose d'innommable, quelque chose de tourmenté, de trouble, de barbare, dont le dessin général manque d'allure, dont le coloris n'a guère de noblesse. Habitués aux constructions classiques qu'on a élevées pour représenter le réel, certains d'entre vous seront excusables s'il arrive que leur première impression devant ma propre construction se traduise par un mépris absolu, par un haussement d'épaules, comme si des idées telles que les miennes étaient indignes d'une réfutation en règle. Ali Ben Maclouf, le texte que je viens de lire n'est pas de Bertrand Russell, mais de William James, tiré de la philosophie de l'expérience qui date de 1910, donc qui précède de peu les travaux de Russell. Et James y expose ce qu'on peut appeler son pluralisme, dont va hériter ensuite Russell, à savoir une certaine méthode intellectuelle, philosophique, qui prend en compte la pluralité ontologique du monde, c'est-à-dire que le monde lui-même ne correspond pas à un simple principe premier, un seul principe premier, mais dépend, bien on retrouve ici l'empirisme, de la subjectivité de chacun.
Je ne dirais pas qu'il dépend de la subjectivité de chacun, je dirais que le monde n'a pas une cause première. Russell dit très souvent, c'est une pauvreté de l'imagination que de penser que le monde a un commencement. C'est une pauvreté de l'imagination de penser que le monde a un commencement. Ayant une imagination plus ample, plus vaste, et cette imagination plus vaste, eh bien, va nous faire dire qu'on n'a peut-être pas besoin de cause première. C'est ce qu'il retient de John Stuart Mill, l'utilitarisme déjà avant le pragmatisme, et je vais vous répondre sur William James dans un instant. L'utilitarisme, il dit, John Stuart Mill, tout enfant, son père lui disait « Tu as été créé par Dieu, mais si tu dis ça, Dieu lui-même qui l'a créé ?» Ben voilà, ça vous guérit complètement de cela. Si tel homme a une mère, le genre humain doit-il avoir une mère? Voilà, il critique l'idée que la totalité des faits puisse avoir une cause. Chaque fait particulier a une cause. Voilà le pluralisme. Donc j'arrive au pluralisme à partir de sa double lecture de John Stuart Mill et de William James. Chaque fait particulier a une cause, certainement. Mais l'idée que il y ait une cause de la totalité, eh bien ça, c'est quelque chose qui est rejeté. Si on pense qu'il y a une cause première, eh bien le pluralisme est toujours mis à mal. Et le pluralisme conséquent, c'est de penser qu'il n'y a pas de cause première, mais que chaque fait particulier a une cause. Et donc c'est une critique aussi directe de toute une théologie, beaucoup plus que de la religion. C'est beaucoup plus une critique de la théologie. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'être nécessaire, il n'y a pas de cause première. La nécessité se dit des propositions et en ce sens, il retrouve effectivement le pluralisme de James. Donc, un monde éclaté, c'est pas un monde de la subjectivité du tout, du tout. Ce monde éclaté, c'est le monde par lequel nous avons commencé un petit peu ce dont nous avons parlé en début d'émission. C'est le monde fragmentaire donné à la connaissance. Et je dirais même, il a une connexion directe avec le monde ouvert de Karl Popper, la société ouverte, parce que Popper disait aussi, on ne peut avancer que fragment par fragment. Ceux qui parlent de la liberté en un sens abstrait, de l'égalité en un sens abstrait, ne savent pas ce qu'ils disent. Partons concrètement et localement des situations d'inégalité particulières, des situations de servitude particulières pour y remédier. Et ça, c'est une méthode précisément analytique, celle qui consiste de prendre point par point les choses et politiquement les prendre point par point, c'est bien souvent avoir une démarche directe pour lutter contre ce qui n'est pas satisfaisant comme telle situation d'inégalité ou telle absence de liberté.
Un autre corollaire qui découle de la mise en œuvre de cette méthode analytique est l'importance accordée à la description. Oui. La connaissance se fait dans et par le processus de description de ce qui est. Il va jusqu'à poser cette question, hein, de quel ordre est notre connaissance quand ce qui est connu est seulement décrit. Oui. On retrouve ici le refus des principes premiers.
Tout à fait, et la description est pour lui un paradigme de la connaissance. Mon collègue demain en parlera certainement pour le tournant linguistique, parce que la description définie, ça a été un paradigme qui a complètement révolutionné la philosophie du langage dans la première moitié du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que grâce à la description, on peut écarter toutes les crispations qui viennent de la dénomination. Je dis le centaure, je dis précisément la licorne, mais après on va se mettre dans des paradoxes pas possibles en disant « oui, mais en fait il n'existe pas, oui, mais vous avez commencé à parler nommer, et nommer c'est indiquer, etc. » Eh bien non, si je l'ai décrit, il n'y a plus du tout d'induction directe de l'existence. Et en fait, on ne doit jamais se demander, dit-il, qu'est-ce qui existe ? On doit toujours se demander à quoi nos mots se réfèrent. Et quand je dis à quoi nos mots se réfèrent, eh bien, j'ouvre complètement le champ de la description, qui est d'ailleurs le champ de la connaissance. Parce que si je me limite à mes sense data, eh bien, je suis juste dans mes souvenirs, dans mes memories. Mais il y a un certain moment où je transcende mes sense data par la description du monde et je peux précisément, sans avoir été au détroit de Magellan, croire et connaître des choses autour du détroit de Magellan par la description.
On voit quand même chez Russell ce souci de se démarquer des nombreux héritages qu'il va ensuite mettre en œuvre, de ses maîtres. On l'a vu à quel point il prenait ses distances avec Hegel, puis avec Kant. J'ai lu un texte de James dont il s'est inspiré, mais il va aussi prendre ses distances par rapport au pragmatisme de James, par rapport à Mill également. Finalement, Russell essaye de construire son propre navire pour y voguer tout seul. On retrouve cette affreuse solitude dont on parlait en début d'émission.
C'est vrai, et cette idée que nous sommes condamnés au fragmentaire. Et que nous, les systèmes, les grands principes, les totalités, les causes premières, eh bien, la métaphysique s'en occupe. Alors on lui reproche en disant « mais vous ne croyez pas à la métaphysique ?» Il dit « c'est pas que je n'y crois pas, c'est que les problèmes métaphysiques, je n'arrive pas à leur trouver une raison. » Et certains problèmes métaphysiques, c'est-à-dire que là encore, toujours cette démarche de la particularité, certains problèmes, je n'arrive pas à trouver de raison d'être. C'est comme Dieu, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je n'arrive pas à trouver de raison pour l'installer dans la posture d'une entité. Et c'est cela finalement, cet intellect sceptique et qui est quand même aussi très très enjoué. I won't take all that they hand me down. They can't smile, though I will frown. But I'm not gonna take it all lying down.
Cause once I get started, I go to town. Cause I'm not like everybody else. 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 And I don't want to roll around like everybody else. And I don't want to live my life like everybody else. And I will say that I'm fine like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. But darling,
merci beaucoup Ali Ben Makhlouf d'être venu nous parler de Russell aujourd'hui. De Bertrand Russell, à qui nous consacrons toute cette semaine. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie des sciences, du langage et de la connaissance à l'Université de Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne, membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et l'auteur, entre autres, de plusieurs ouvrages consacrés à Russell, hein, qui est disponible aux Belles Lettres. Un autre, Le vocabulaire de Russell, disponible chez Ellipse. Et puis enfin, Russell, L'atomisme logique au PUF, un livre qui est malheureusement épuisé, l'appel est lancé. Et plus récemment, vous publiez chez DK Éditions, mais publiez également chez Vrin en France, Selon la raison et Le réveil démocratique. Et chers auditeurs, pour lire Russell, commencez notamment par son autobiographie, qui est disponible en deux volumes aux Belles Lettres.
I'm not like everybody else. Like everybody else. Like everybody else. Like everybody else. Like everybody else.
I'm not like everybody else, ce sont les Kinks qui le chantent et c'est ce que Russell aurait pu écrire sans doute. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore deux minutes papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui comme tous les jours vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Les éditions Klinksic poursuivent leur travail de publication des textes de et autour de Jean-François Lyotard. Après Les rudiments païens et Lyotard à Nanterre, place donc à ses causeries sur le temps intitulées L'inhumain, paru fin août. On connaît surtout Jean-François Lyotard pour son usage de la notion de postmoderne. C'est en 79 que paraît son grand ouvrage « La condition postmoderne, rapport sur le savoir » et que cette notion philosophique de postmodernisme est alors popularisée. Mais dans ses causeries sur le temps qui sont tout juste parues aux éditions Klimsic, Lyotard ne parle pas de postmodernisme. Il préfère l'idée de réécriture de la modernité. Réécriture plus précisément des quelques traits qu'elle revendique, comme l'émancipation du sujet ou le progrès par exemple. Il s'agit alors pour Lyotard, dans ses 16 causeries écrites pour la plupart dans les années 80 et destinées à un large public, de réécrire la modernité. De réécrire la modernité pour nommer dans une perspective critique l'effet caché à la source des maux dont on souffre. Cette perspective critique, Lyotard la déploie dans ses textes sous l'angle du temps. Comme il le dit, la postmodernité n'est pas un âge nouveau. Il n'y a plus d'histoire humaine, mais seulement une histoire inhumaine. C'est la grande idée de Lyotard dans ses textes, qui vont de la question du corps à celle de la parole, c'est leur fil rouge. L'homme n'est plus désormais le principe ni la fin de l'histoire. L'histoire s'est émancipée de l'homme. Et derrière ce constat, le pire n'est pas la disparition de la souveraineté de l'homme. Non, c'est au contraire la disparition de ce que Lyotard nomme sa passibilité, c'est-à-dire sa capacité à accueillir, à écouter, à être disponible. On découvre alors dans ces textes tout le style particulier de la pensée de Lyotard, proposé dans une grande mélancolie une nouvelle définition de l'humain, non plus un être autonome, mais surtout un être capable d'être seulement affecté.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Bertrand Russell. Demain, ce sera le philosophe Pascal Ludwig, maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne et spécialiste de philosophie du langage et de philosophie de l'esprit, qui viendra vous parler du tournant linguistique de la philosophie. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez les indications bibliographiques et cinématographiques, non pas aujourd'hui, musicales, concernant l'émission du jour. Et vous pourrez également la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.